Les zones d'ombre de l'histoire.
La Seconde Guerre mondiale, et surtout les arcanes du Troisième Reich, ont toujours suscité l'intérêt des historiens, mais aussi parfois la fascination. Ainsi, lorsque le 22 avril 1983, le magazine allemand Stern publie un communiqué pour annoncer l'imminente publication dans ses colonnes de carnets de notes inédits rédigés par Adolf Hitler, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Historiens, journalistes, mais aussi politiques s'interrogent. D'où viennent ces carnets et que contiennent-ils ? L'histoire a commencé 4 ans plus tôt, lorsqu'un journaliste du Stern a recueilli les confidences émanant d'un intermédiaire côtoyant des nostalgiques du Troisième Reich. Ce dernier aurait vu chez un collectionneur un carnet rédigé de la main d'Adolf Hitler lui-même. Il y aurait au total 27 carnets écrits entre 1933 et 1945. Le journaliste, qui a une fascination pathologique pour le Troisième Reich, va s'enflammer pour cette histoire et remonter la piste jusqu'au détenteur des carnets. Dans des conditions étranges, une transaction va être conclue dans le plus grand secret entre le Stern et le détenteur des carnets. À la fin de l'année 1982, une rumeur commence à circuler parmi les sympathisants du Troisième Reich. Bien évidemment, les historiens s'interrogent. Mais le Stern, qui a déjà déboursé près de 4 millions de dollars, garde le silence. En décembre 1982, l'écrivain controversé David Irving publie une lettre ouverte dans plusieurs journaux où il explique qu'un important titre de presse allemand posséderait des documents inédits sur le Troisième Reich. Sous la pression et désireux de rentabiliser enfin les sommes colossales investies, le Stern décide de publier les premiers carnets en avril 1983. Mais le premier numéro est à peine mis sous presse que le doute s'installe. Et quelques jours plus tard, la sentence tombe. Les carnets d'Hitler sont des faux. Je reviens aujourd'hui sur cette rocambolesque histoire qui a des allures de farce où le grotesque côtoie le pathétique et où le journalisme n'en sort pas grandi.
Und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau füllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's mir zum Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hat den andere Pläne, Simon Beauvoir, sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Le personnage principal de cette histoire s'appelle Konrad Kujau. Il naît le 27 juin 1938 dans ce qui deviendra l'Allemagne de l'Est après la guerre. Le jeune homme est doué pour le dessin, mais il est trop pauvre pour poursuivre des études artistiques. Le 7 juin 1957, il passe à l'Ouest et s'établit à Stuttgart. Il vit dans l'errance et devient délinquant. Il est d'ailleurs très tôt condamné pour fabrication de faux documents administratifs. Retournant parfois en RDA, il découvre que de nombreux objets ayant trait au nazisme ont été conservés dans les familles, malgré l'interdiction du gouvernement. Kujau va alors acquérir uniformes, armes, médailles et autres objets liés au Troisième Reich. Et tout en menant une vie d'honorable chef d'entreprise, il commence un véritable trafic entre les deux Allemagnes. Lui et sa femme passent régulièrement la frontière, mais ne se feront repérer qu'une seule fois. Une fois à l'ouest, le prix des objets grimpe de façon spectaculaire. Les affaires sont tellement florissantes que bientôt, l'appartement du couple devient trop petit. Kujau loue alors un local qui devient un commerce clandestin où les nostalgiques du Troisième Reich se retrouvent la nuit pour faire leurs achats. Profitant du fait qu'en Allemagne de l'Ouest, la détention d'objets ayant trait à la période nazie est également interdite et que ses clients n'ont donc aucune possibilité de faire authentifier légalement la marchandise, Kujau va alors fabriquer de faux certificats d'authenticité pour accompagner ses articles. Une simple paire de bottes d'officier SS va devenir la paire de bottes d'Himmler grâce à une lettre l'authentifiant. Son prix ne sera plus le même. Le faussaire va ensuite vendre des lettres d'Hitler, de Göring, de Bormann ou encore de Rudolf Hess, qu'il écrit bien entendu lui-même. Il prend soin de vieillir l'aspect de cette correspondance. Malgré cela, ses clients auraient pu avoir un doute, tant le contenu des lettres est peu en phase avec la réalité. Pourtant, le faussaire n'a aucune difficulté à placer ses faux grossiers. Il se lance alors dans la réalisation de toiles et aquarelles qu'il signe de la main d'Hitler et qu'il prétend dater de l'époque où le futur dictateur tenta par deux fois d'intégrer l'école des beaux-arts de Vienne, à partir de 1907. Bien sûr, il n'oublie pas d'accompagner ses faux par des notes d'Hitler lui-même ou des lettres de Bormann, par exemple, qui authentifient la toile. Bien plus tard, à ce propos, Kujau racontera une anecdote. En juin 1979, Fritz Stiefel, son plus gros client, veut faire expertiser sa collection. Le faussaire s'est engagé à rembourser les objets qui s'avéreraient faux. Stiefel est discrètement mis en rapport avec August Prisak, un ancien membre du parti nazi qui s'est autoproclamé spécialiste du travail artistique d'Adolf Hitler. Non seulement Prisak authentifie toute la collection, mais devant une aquarelle, il affirme très ému l'avoir vu en 1936. Kujau dira « J'ai compris à qui j'avais affaire, j'avais peint cette aquarelle une dizaine de jours plus tôt. » Le faussaire franchit une étape supplémentaire vers ce qui sera son apogée. Au milieu des années 70, il propose à Fritz Stiefel le manuscrit de Mein Kampf. Non seulement il détient les deux volumes rédigés de la main du Führer, mais en plus, il y a un troisième volume inédit. Plus c'est gros, plus ça passe. En effet, Hitler n'a pas écrit à la main son manifeste, mais il l'a tapé à la machine, en partie durant son emprisonnement à la suite du putsch manqué de Munich. Pourtant, si Stiefel est un collectionneur acharné de tout ce qui a trait au Troisième Reich, il n'en est visiblement pas un connaisseur, car il achète sans sourciller les manuscrits. Dès lors, Konrad Kujau comprend qu'il peut aller encore plus loin dans la supercherie. Et les rumeurs autour de l'opération Seraglio vont lui fournir la matière de son prochain travail. Le 20 avril 1945, comprenant que c'en est fini du Troisième Reich, Hitler donne le feu vert à l'opération Seraglio, planifiée quelques semaines auparavant. Il s'agit d'évacuer les principaux responsables du régime. Ce jour-là, une dizaine d'avions décollent en menant environ 80 personnes vers Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises. Dans l'un des appareils se trouve le majordome d'Hitler, Wilhelm Arndt, ainsi que des cantines contenant de nombreux documents personnels du Führer. Mais l'avion s'écrase après 30 minutes de vol. Apprenant le crash, Hitler se serait effondré en déclarant que ces documents étaient d'une valeur inestimable. Il y a eu de nombreux fantasmes sur la fin du Troisième Reich, et cet accident n'échappe pas à la règle. Des documents auraient-ils pu être retirés de l'épave ? Personne n'en a jamais retrouvé, mais certains entretiennent le doute, et Kujau va s'engouffrer dans la brèche.
Les zones d'ombre de l'histoire.
C'est à une date imprécise entre 1975 et 1978 que Konrad Kujau débute la fabrication des faux carnets d'Adolf Hitler. Il utilise des carnets achetés en RDA pour obtenir une qualité de papier plus médiocre. En tentant de reproduire l'écriture gothique utilisée à l'époque, il commet une première erreur. Sur la couverture, à l'aide de décalcomanie, il veut apposer les initiales de l'auteur. Mais il confond la lettre A et F. Ce sont donc les initiales FH qui ornent le premier carnet. Par chance, la lettre F peut renvoyer à Führer, donc ce n'est plus une erreur. Il dilue dans l'eau l'encre qu'il utilise afin de la rendre plus instable. Et pour parfaire le travail de vieillissement, il verse quelques gouttes de thé pour flétrir et jaunir le papier. Puis il cogne l'ouvrage contre un meuble pour abîmer l'ensemble. Pour le contenu, Kujau puise essentiellement dans les deux volumes de Hitler, Redan und Proklamationen 1932-1945, un ouvrage écrit par Max Domarus, qui compile discours et considérations du Führer. Le faussaire modifie certaines phrases pour faire croire qu'il s'agit de notes brutes, et il intercale des anecdotes ou réflexions parfois légères, parfois triviales, de sa composition. Kujau montre très vite le premier volume à son plus fidèle client Fritz Stiefel, qui veut aussitôt l'acheter. Mais le faussaire refuse. Il lui prête néanmoins le manuscrit. En octobre 1979, lors d'une soirée chez Fritz Stiefel et en présence de Jacob Tiefenthaler, amateur lui aussi de reliques du Troisième Reich, Kujau, qui a été présenté sous le nom de R. Fischer, est ivre et il devient bavard. Il explique que son frère a réussi à corrompre un responsable des archives de la RDA et il parle des carnets, en mentionnant qu'il en possède 27, qui proviennent du crash de l'avion du 25 avril 1945. Tiefenthaler, qui peut consulter l'exemplaire chez Stiefel, est convaincu et en informe l'une de ses connaissances, un journaliste du magazine Stern. Gerd Edemann est d'une certaine manière un très bon enquêteur. Mais sa ténacité n'a pas de limite. Et les choses se terminent toujours de la même manière. Son rédacteur finit par confier le travail de rédaction à un de ses collègues. En janvier 1973, son journal l'envoie faire un reportage sur le Karin II, un yacht qui a appartenu à Hermann Göring et qui rouille dans le port de Bonn. Edemann se passionne immédiatement pour le bateau et décide de l'acheter. Tentant de reconstituer l'histoire du yacht, il rencontre assez vite la fille de Göring qui l'introduit dans les milieux néo-nazis. Le bateau ne tarde pas à devenir le lieu de rendez-vous des nostalgiques du Troisième Reich. Mais bientôt, Edemann est couvert de dettes. Il va alors proposer à son journal d'écrire un livre d'anecdotes sur le Troisième Reich. Anecdotes qu'il compte recueillir en organisant des croisières sur le Karin II, où sont invités tous les anciens SS. Le Stern lui fait une avance de 60 000 Deutschmark, mais ni l'alcool qui coule à flot lors de ses excursions, ni le doux tangage du yacht ne font naître le moindre livre. Lassé de sa passion dévorante et stérile pour ce sujet, le Stern jette l'éponge et lui interdit de poursuivre le moindre travail sur le Troisième Reich. Mais lorsque Jacob Tiefenthaler parle du carnet qu'il a vu chez Stiefel et des 26 autres que posséderait un certain R. Fischer, Edemann s'enflamme. D'autant que l'opération Seraglio excite aussi son imagination depuis longtemps. Edemann rencontre bien vite Stiefel, et même si ce dernier refuse de lui révéler sa source, le journaliste finit par identifier Fischer alias Kujau et le rencontre dans son antre de Stuttgart. Cujao confirme bien qu'il possède 27 carnets provenant d'une malle ayant pu être retirée de l'épave de l'avion. Mais le faussaire parle aussi du troisième volume de Mein Kampf, du libretto d'un opéra composé par Hitler, de poèmes et de lettres inédites. Il fait valoir qu'il ne sera pas facile de faire sortir ce trésor de RDA. Edemann est littéralement fasciné. Et alors qu'il n'a plus le droit de traiter ce sujet pour le Stern, il affirme que le journal est prêt à acheter l'ensemble des documents pour 2 millions de Deutschmark avec une avance immédiate de 600 000 Deutschmark. Il garantit aussi l'anonymat total de sa source. Mais le journaliste sait très bien que sa rédaction ne le suivra pas. Il va alors se rapprocher d'un collègue. Thomas Wald présente deux intérêts. D'une part, il est l'ami d'enfance d'un des dirigeants de la maison d'édition du Stern. Et d'autre part, il est chargé des enquêtes historiques au sein du magazine. Edemann réussit à le convaincre et ils obtiennent sans difficulté un rendez-vous avec Manfred Fischer, le directeur du groupe de médias. Gerd Edemann fait valoir l'importance inestimable de sa découverte. Il parle des carnets, du troisième volume de Mein Kampf, de lettres, de tableaux, et explique que sa source veut rester anonyme et ne veut traiter qu'avec lui. Au passage, le journaliste a gonflé la note et abusé son fournisseur et son employeur. Chaque carnet coûte désormais 85 000 Deutschmark, soit environ 93 000 euros. Le troisième volume de Mein Kampf, 200 000 Deutschmark, et les lettres, tableaux et dessins seront vendus pour 500 000 Deutschmark. Le journaliste exige aussi le contrôle exclusif des expertises. Manfred Fischer n'hésite pas, sans en informer sa rédaction ni consulter le service juridique du groupe, il signe un contrat et fait débloquer les crédits. Au passage, Gerd Edemann a obtenu d'être associé aux bénéfices de l'opération et touche d'emblée une prime de 300 000 Deutschmark.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Gerd Edemann entre en possession du premier des 27 carnets le 17 février 1981. Et pendant 6 mois, Cujao lui remet en moyenne 2 carnets par mois. Mais en août, le journaliste explique à Fischer que de nouvelles difficultés sont apparues pour faire sortir les carnets de RDA. Il faut acheter le silence et la complicité de plus d'intermédiaires que prévu. Il faudra donc maintenant débourser 100 000 Deutschmark par carnet. À la fin de l'année, la direction du journal a déjà payé 1 800 000 Deutschmark. Manfred Fischer s'est enfin décidé à mettre la rédaction du journal au courant. Début 1982, Grüner et Jahr, propriétaires du Stern, changent de direction. Mais le remplaçant de Manfred Fischer confirme toutes les décisions de son prédécesseur. Constatant que la nouvelle direction est aussi crédule que la précédente et que la rédaction est maintenant aussi acquise à sa cause, Edemann invoque de nouvelles difficultés et le prix de chaque carnet augmente encore pour passer à 200 000 Deutschmark pièce. Le faussaire n'est pas au courant de l'évolution des prix. En juillet 1982, le journaliste annonce que 33 carnets supplémentaires ont été découverts. La direction du Stern débloque alors de nouveaux crédits pour les obtenir. Le train de vie des deux escrocs évolue considérablement. À la fin de l'année, la direction du Stern a déjà déboursé plus de 7 millions de Deutschmark, soit environ 4 millions de dollars, et rien n'a encore été publié, car le journal a décidé d'attendre d'être en possession de toute la collection pour démarrer la publication. Mais l'affaire a commencé à s'ébruiter. Gerd Edemann s'est vanté et chez les sympathisants du Troisième Reich, une rumeur commence à circuler. En décembre 1982, l'écrivain anglais David Irving, dont les livres montrent une certaine complaisance à l'égard du régime d'Hitler, publie une tribune dans plusieurs journaux et révèle qu'un important titre de presse allemand possède des documents inédits écrits par le Führer et qu'il ne les publie pas. Ses contacts avec Auguste Prisac lui ont permis de voir le premier carnet quelques mois plus tôt. Au début de l'année 1983, la direction du Stern décide de démarrer la publication. Edeman tente de s'y opposer, mais le Stern a besoin de rentrer de l'argent. Thomas Wald est donc chargé de prendre contact avec des experts pour authentifier les documents. Mais la rédaction a tellement peur que l'information ne fuite encore davantage qu'elle restreint le choix à deux spécialistes. Par peur que les précieux documents s'égarent, le Stern ne fournit que des photocopies, empêchant toute analyse chimique. Il ne pourra donc y avoir qu'une analyse graphologique. Le journal ne signale pas aux deux enquêteurs qu'il s'agit de manuscrits d'Hitler, mais simplement de documents historiques. Pour la comparaison, ils fournissent trois manuscrits. L'un d'eux est authentique, il vient des archives nationales, mais les deux autres proviennent de la collection de Fritz Stiefel et ont été fabriqués par Cujau. Les documents sur lesquels travaillent les deux experts sont donc en grande partie faux. Ils remettent leurs conclusions. Pour eux, les manuscrits sont authentiques. Le journal sollicite aussi le laboratoire de la police ouest-allemande, mais ne fournit qu'un seul feuillet. Les enquêteurs disent qu'il leur faudrait plus de documents pour faire une analyse fiable, mais que déjà, le feuillet qui leur a été remis ne leur semble pas d'époque. La direction du Stern ne donne pas suite et préfère se tourner vers un historien qui fait autorité. Hugh Trevor Roper, qui est professeur à Oxford, fut envoyé à Berlin par les services de renseignement britanniques lors de la chute du régime nazi pour enquêter sur la rumeur selon laquelle Hitler aurait survécu. Il en a tiré le livre « Les derniers jours d'Adolf Hitler ». La direction du Stern lui montre la collection de carnets et les autres documents en lui précisant que l'analyse graphologique les a authentifiés. On lui dit aussi que les journalistes ont pu prouver que ces documents viennent bien de la malle qui se trouvait dans l'avion qui s'est écrasé le 20 avril 1945 et qu'une analyse chimique les a authentifiés. Ces deux dernières informations sont fausses. Roper conclut que les documents sont vrais et s'empresse de rédiger un article pour le Times. Il ne va pas tarder à le regretter. Le Stern négocie alors avec la presse internationale pour la vente des droits. En France, Paris Match déboursera 400 000 dollars. Le 22 avril, le Stern publie une dépêche pour révéler l'existence des carnets et leur imminente publication et annonce dans la foulée une conférence de presse pour le 25 avril. Mais les historiens sont sceptiques. On rappelle qu'Hitler, atteint de la maladie de Parkinson, avait de plus en plus de mal à écrire. On évoque aussi que tous les témoignages relatifs au crash du 20 avril 1945 convergent pour dire qu'aucun document n'a pu être sauvé. Un historien se demande si ces carnets ne sont pas un coup monté par les services de renseignement de la RDA. Même le chancelier Helmut Kohl exprime publiquement ses doutes. La veille de la conférence de presse, Hugh Trevor Roper réussit à rencontrer Gerd Edman. Au cours de leur conversation, ce dernier affirme que Martin Bormann, le secrétaire particulier d'Hitler, est toujours vivant et qu'il va prendre la parole pour authentifier les carnets. Roper comprend qu'il s'est fait piéger. Lors de la conférence de presse, il prend la parole d'une voix blanche pour exprimer ses doutes, en particulier sur la provenance supposée des carnets. Mais Peter Kor, le rédacteur en chef, martèle qu'il s'agit d'une révélation qui devra amener à réécrire l'histoire du Troisième Reich. Dans l'assistance, David Irving prend la parole pour dire qu'aucun test chimique n'a été effectué. Mais surtout, il relève qu'un des carnets comporte une entrée au 20 juillet 1944, jour de l'attentat manqué contre Hitler au cours duquel il a été blessé au bras droit. Difficile d'imaginer qu'il ait pu écrire après, surtout pour ne rien mentionner de l'événement. Irving est prestement expulsé de la salle. Le scoop du siècle est en train de se transformer en une farce. Le magazine triple son tirage, mais devant la polémique qui enfle, la direction accepte de remettre trois des carnets au service fédéral des archives, tout en affirmant que la publication va continuer. Le 26 avril, Edman reçoit les trois derniers carnets. Le 28, le Stern annonce une édition spéciale où l'on apprendra ce que Hitler a pensé du voyage de Rudolf Hess en Écosse. le 1er mai, le Sunday Times publie une interview de David Irving qui revient sur son opinion. Il pense maintenant que les carnets sont authentiques. En effet, après avoir pu les consulter, il affirme avoir remarqué qu'au fil des pages et des années, l'écriture devient plus instable, ce qui, selon lui, serait cohérent avec la maladie de Parkinson dont souffrait le dictateur. Mais la volte-face d'Irving n'est sans doute pas sans arrière-pensée. L'écrivain est en effet révisionniste, et dans certains de ses livres, il a plusieurs fois exonéré Hitler de sa responsabilité dans la Shoah. Or, les carnets comporteraient apparemment peu de références à ce sujet, ceci allant donc dans le sens des idées qu'il défend. Mais les choses s'accélèrent. Le 2 mai, les premiers résultats des analyses menées par les archives fédérales tombent. Un composant fluorescent n'existant pas à l'époque supposée de l'écriture des carnets a été détecté sur le papier. Les reliures contiennent quant à elles un matériau qui n'est utilisé que depuis 1953. La rédaction du Stern s'entête et charge ses journalistes d'enquêter pour savoir si ce composant aurait pu être préalablement utilisé à titre expérimental. Le journal contraint aussi Headman à révéler sa source. Le 4 mai, l'expert Kenneth Rundell rend ses conclusions. Encre et papier ne sont pas d'époque. Le 6, ce sont les archives fédérales qui communiquent leurs derniers résultats. Le faible taux d'évaporation du composé chimique de l'encre indique que les carnets ne sont pas antérieurs à 2 ans. De plus, les experts ont relevé les mêmes erreurs que dans les ouvrages de Max de Marus. Le service des archives fédérales considère l'affaire suffisamment grave pour prévenir le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement fédéral publie un communiqué quelques heures avant la rédaction du Stern qui admet enfin la vérité. Konrad Kujau va d'abord s'enfuir en Autriche, mais lorsqu'il apprend que le journal a déboursé près de 9 millions de Deutschmark, soit un peu moins de 10 millions d'euros, et qu'il a donc été lui-même escroqué par Gerd Hedemann, il se constitue prisonnier et dénonce son complice. Le 26 mai, Hedemann est arrêté. Leur procès s'ouvre le 21 août 1984 et le verdict est prononcé le 8 juillet 1985. Konrad Kujau écope de 4 ans de prison et Gerd Hedemann de 4 ans et 8 mois. Le juge, soulignant que le principal responsable de cette fraude est le Stern, on peut difficilement lui donner tort. À sa sortie de prison, Kujau se mettra à peindre de vrais faux tableaux qu'il vendra comme tels en apposant sa signature. Il rencontrera un certain succès. Hedemann, quant à lui, continuera à affirmer que des documents ont survécu au crash du 21 avril 1945. Il finira par vivre des minima sociaux. Il n'a même pas pensé à écrire les carnets de Konrad Kujau. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro des Zones d'ombre de l'histoire et vous pouvez en attendant vous rendre sur la page de l'émission pour écouter tous nos précédents podcasts.